Bonjour. Plutôt là, voilà. Amen. C'est pas évident, hein. On est dans une grande salle et puis on vient d'offrir un bouquet de louanges à notre papa pour sa fête d'aujourd'hui. Et puis on arrive à ce temps de partage et de message. Alors, non mais, on ne sait pas s'il faut rentrer dans l'intimité comme ça ou rester derrière la chaise. Je ferai les deux choses, hein, éventuellement, pour bouger un peu. En fait, déjà pour la fête des pères, donc je voulais dire que, je ne sais pas, je pense qu'il y a des papas ici ce matin. Des papas. Hein? Philippe, Didier, hein? Je suis en train de compter tous ces enfants, hein, qu'ils ont été papa. Marc, Olivier, on est déjà dans les deux chiffres. Bah, Yann, merci, merci. Alors, et notre frère, non? Non, peut-être. Il y a des enfants peut-être en Australie aussi, d'accord, qui ont dû perdre aussi le papa dans un premier temps, d'accord, ils ont retrouvé un beau-père qui est avec nous aujourd'hui, amen. Alors, ah oui, Jacques, alors comment ça s'est passé là? Comment ça s'est passé? Non? Les papas là, vous sentez quand même, vous êtes heureux? Ça y est? Hein? Qu'est-ce qu'on t'a dit? Et voilà, des coups de fil qui vont arriver, non, après, il me semble. Espérons-le, parce que pour l'instant, après la sieste. Allez, donc voilà, donc tout ça parce que donc en fait notre Père céleste et parfait a su nous faire un modèle suprême, n'est-ce pas? Parce que tous les papas donc rentrent un peu dans cet exemple parfait de comment... s'occuper, comment prendre à cœur tous ses enfants. Il le fait pour nous, hein, chacun, notre Père Céleste. Donc, c'est surtout sa fête aussi à lui aujourd'hui, parce que c'est lui qui nous a montré comment aimer. Amen. C'est en fait le Père des orphelins. Voilà. C'est le Père des orphelins aussi. Hein. C'est-à-dire là où il manque cette paternité, Dieu se met à la place et aime et se permet à aimer sans fin tous ses enfants, tous ces orphelins de guerre. Enfin, j'étais en Afrique ces derniers temps, et on les voit là, dans les rues. Et c'est ce Dieu-là, notre Père parfait, qui les aime aussi, beaucoup plus que nous. Donc je pensais à ces dizaines de milliers, enfin des millions de cartes de vœux, ou des cris de cœur, que lui, il doit capter aujourd'hui, et en fait tous les jours. Parce que chaque cri de cœur d'un enfant qui est dans la difficulté, chaque désir, chaque prière d'un enfant remonte à notre Père parfait. Et je ne sais pas ce qu'il fait. Si, il répond à ses cris. Mais imaginez ça. Hein? Toutes ces cartes de vœux qui arrivent là-haut. Et aujourd'hui, je voulais vous dire que je pense qu'il faut inverser les choses et se poser la question... Comment est-ce que Dieu, notre Père, il vit cela? Comment est-ce qu'il vit cela? Bien sûr, il reçoit tous ses vœux, toutes ses prières, mais en même temps, quels sont ses vrais sentiments par rapport avec nous, ses enfants? Parce qu'il a des sentiments, hein. C'est aussi un père, un peu comme nous, qui est capable de se mettre en colère, parce que ça ne va pas. Il n'est pas content avec notre manière de nous comporter. Aussi bien qu'un père qui est plein d'amour, qui fait tellement de cadeaux et toutes ses bénédictions. Donc c'est ça notre Père. Et puis je me suis dit, c'est aussi un Père qui a envie d'être en contact avec nous tout le long de notre chemin sur terre. Comme on disait hein, tout à l'heure avec Véro, maintenir cette intimité quelles que soient les circonstances, rester en contact. Et je pensais justement à mon voyage en Afrique, donc il y a une quinzaine de jours, et le fait que j'ai voyagé, entre autres, sur deux avions différents, il y avait donc ces grosses Airbus-là, à partir de Bruxelles jusqu'à Kinshasa, j'étais là-bas, où le long de la route, le pilote vous parle, n'est-ce pas ? Pour vous dire, on est à telle et telle altitude, tout va bien, et puis là, une fois arrivé à Bruxelles, la température est à, je ne sais pas, 13 degrés, il y a quelques nuages, on nous prépare hein, pour revenir un peu dans le pays froid. Donc, à différents moments du vol, hein, donc il y a cette voix de pilote pour nous rassurer que tout va bien. Hein, il pourrait y avoir quelques petits problèmes de turbulence des fois, mais en fait on est quand même averti pour se préparer. Donc ça c'était un avion touristique, disons, hein, normal. Et puis il y avait cet autre avion qui était un peu particulier parce que c'était un avion de cargo. Et on était un peu bloqué dans une ville, on a dû quand même négocier avec le pilote. On me dit, ben écoute, vous êtes blanc, hein, allez vous arranger avec le pilote, parce qu'on devait rentrer sous Kinshasa, et il n'y avait pas d'avion. À partir de cette ville, il y avait seulement deux avions par semaine, c'était pas le bonjour. Mais arrivé à l'aéroport, on a su avoir trois places dans cet avion de cargo. Enfin, il n'y avait pas de place. On était un peu comme la bétail, hein. Il n'y avait pas de siège, il n'y avait pas de doubleau, il n'y avait aucune sécurité. Donc on était à trois, dans cette carlingue de 40 mètres de long, je dirais. J'ai jamais vécu ça, mais en fait, j'étais pas dans la Deuxième Guerre. Apparemment, les gens dans les bombardiers et tout, ils étaient des fois couchés par terre. Et puis donc, mais on s'est accrochés l'un à l'autre pour le décollage et l'atterrissage. Mais j'en parle parce que finalement, le pilote et même le copilote, ils étaient là, on ne les voyait pas. Il n'y avait aucun contact. Aucun contact. Nous étions livrés à nous-mêmes, bien sûr. On a su avoir quand même une réduction par rapport avec le billet, heureusement. Je ne sais pas si comment l'assurance aurait marché, hein, dans ce cas-là, rien du tout. Pas de billet. Hein, pas de, si, on a versé, mais en fait, je pense que ça rentrait directement dans la poche. Et je me suis dit, entre les deux, quel pilote aurions-nous aimé avoir ? Mais bien sûr, celui du premier avion, où on est en contact constant pour savoir un peu ce qu'il y a comme difficulté, de danger qui nous attend. Et ça, c'est un peu comme Dieu notre Père. Il veut garder ce contact avec nous tout le long du voyage, parce que c'est un Dieu qui s'occupe de nous. Amen. Mais il doit avoir aussi des sentiments de frustration à notre égard. Parce que c'est une histoire aussi de fierté. Partenaire, lorsque vous êtes papa, ben, avec vos enfants, mais lorsqu'ils font des bêtises, ben, il y a quelque chose quand même qui nous dérange, qui nous agace. Et on peut piquer la colère, juste également. Et notre Père Céleste est comme ça aussi. C'était le cas avec Israël. En Exode chapitre 32, là où Israël, donc les Israélites, ils avaient désobéi à Dieu, il les a accusés d'avoir la nuque raide, une tête de mule, d'être complètement entêté, de ne rien comprendre. Et donc il s'est mis en colère et il a dit à Moïse, laisse-moi faire, je vais les supprimer. L'indignation, c'est 32, Exode 32, 9 à 14. Il était dépassé, notre Dieu et Père. Et puis, Moïse se met à intercéder en disant, si tu les supprimes, qu'est-ce que les nations, qu'est-ce que les Égyptiens ils vont dire à notre sujet? C'est quand même ton peuple, tu les as choisis pour toi-même. Et Dieu fait marche arrière. Enfin, il change d'avis. C'est ça qui est fort avec notre Dieu. Il est d'accord de se laisser faire une pression pour qu'il change d'attitude vis-à-vis de nous et ce qu'il avait à cœur de faire. On appelle ça, nous, l'intercession. Le fait de venir et de plaider avec Dieu par rapport avec une situation avec laquelle il n'est pas d'accord, pour que finalement, en faisant appel à sa miséricorde, il change. Il change d'avis. C'est fantastique, n'est-ce pas? Quelque part, ils se permettent de se laisser interroger par nous pour que donc qu'il y ait une autre manière quand même de gérer la situation. Ça, c'est des hommes et des femmes qui se mettent sur la brèche. Et c'est pour cela que Véro vient d'intervenir. Parce qu'en tant qu'intercesseur, elle avait reçu quelque chose qui était pour nous tous. Donc finalement, elle a voulu le partager avec nous parce que nous avons des choses aussi à corriger dans notre comportement. Amen. Allez, ça c'est le premier cadeau pour la fête de notre Dieu aujourd'hui, d'accord? Qu'on est d'accord d'intercéder dans telle et telle situation pour que le cœur de Dieu puisse changer. Et puis, je pense que notre Père aussi doit vivre des moments de déception assez profondes. Parce qu'en fait, aussi, dans le cas d'Israël, il avait mis des ressources importantes à leur disposition. En fait, ils étaient des esclaves en Égypte, et puis à un moment donné, il a dit, ben, écoutez, vous prenez un agneau, vous l'immolez, et après il faut manger en partie, préparez-vous pour la sortie d'Égypte. Et cette sortie d'Égypte était remarquable parce que nous lisons dans le texte, je pense que c'était dans le psaume 105, qu'en fait, ils sont partis. Voilà. Il frappa, donc c'est le verset 36, il frappa tous les aînés du pays, donc c'est d'Égypte. Prémices de leur maturité, il fit sortir son peuple avec de l'argent et de l'or, et nul ne chancela parmi ses tribus. Des gens avec le statut d'esclave, lors de la sortie d'Égypte, mais ils se sont tapés une santé tellement forte qu'il n'y avait personne qui était affaibli. Il n'y avait personne qui était laissé en arrière, c'est parce qu'ils avaient trouvé donc la grâce spéciale de Dieu pour revenir un peu sur l'héritage d'origine. C'est-à-dire d'être plus des esclaves, mais des vrais enfants de Dieu. C'est pour cela qu'il les faisait sortir. Et Dieu a toujours envie de nous faire sortir de ce que nous vivons, parce que il a besoin à ce que nous revenions quand même à son plan d'origine. Vous savez, ils étaient à peu près 1,5 million qui s'en sortaient d'Égypte. Mais ce qui s'est passé par la suite est assez triste à raconter, parce que sur ces 1,5 million qui sont rentrés dans cette traversée des déserts, combien sont sortis? Seulement deux. Caleb et Josué. Les autres, ils ont laissé leur peau dans le désert. C'est Hébreux chapitre 3. À partir du verset 16, on va le lire ensemble. Hébreux chapitre 3. Pourquoi est-ce qu'ils ont laissé leur vie dans le désert? Mais en fait, c'est parce qu'ils avaient tellement déçu à Dieu. Ils avaient tellement manqué dans ses exigences de vivre selon la loi de Dieu, de suivre le Seigneur, cette nuée, cette colonne de feu, jour et nuit, que finalement, Dieu devait les punir. Le verset 16, Hébreux 3, « Quels sont en effet ceux qui entendirent et qui provoquaient l'exaspération ?» C'était un moment de révolte, en fait. Ça s'est passé à Mériba, enfin Massa et Mériba, lorsqu'ils ont commencé à contester le fait que Dieu les avait sauvés d'Égypte. Comme quoi, ici on n'a pas d'eau, il n'y a rien à boire, ils ont murmuré contre le Seigneur, le Père et le Sauveur. Et là, ils ont vécu ces conséquences dramatiques. Au verset 17, et contre qui s'est-il emporté pendant 40 ans? Donc tout le temps, ils mettaient Dieu à l'épreuve, c'est-à-dire ils tentaient le Seigneur. Ils ne marchaient pas par la foi, ils voulaient se débrouiller tout seuls. Et c'est là où papa n'a pas été très content avec eux, parce qu'il leur avait donné tout dont ils avaient besoin. Même jusqu'au point, lors de cet épisode, Moïse a pris les bâtons, et vous savez, il fallait quand même du courage et de la foi, parce qu'avec ce même bâton, il est allé devant Pharaon, et il a jeté par terre, et le bâton s'est transformé en serpent. Maintenant, il fallait prendre le bâton et frapper sur le roc. Il a fait, et il y a de l'eau qui en est sortie. Ça, c'était la grâce de Dieu devant son peuple. Mais ce peuple s'en restait dans cette désobéissance. Et finalement, je continue la lecture. N'est-ce pas contre ceux qui avaient péché dont les cadavres tombaient dans le désert, et à qui jura-t-il qu'il n'entrait pas dans son repos, sinon à ces indociles? Et nous constatons qu'ils ne purent pas entrer à cause de leur incrédulité. Vous savez, Dieu nous a créés pour lui faire confiance. Sans la foi, on ne peut pas lui faire plaisir. Donc je pense qu'aujourd'hui, une fête de père, on a besoin de retrouver cette obéissance d'enfant, cette simplicité de confiance par laquelle papa est tellement content avec nous parce qu'il s'attend à ce qu'on lui fait confiance, à ce qu'on s'accroche à lui, à ce que quand même on le mette en première place dans nos vies. Et ce n'était pas le cas avec eux. Attention, on peut louper notre sortie, on peut louper notre chemin de disciples si on n'obéit pas à Dieu. Là, toutes ces personnes-là, les Israélites, le peuple de Dieu, bien sûr, il y avait d'autres personnes qui sont nées pendant la traversée, heureusement, mais ceux qui sont sortis d'Égypte, sauf d'eux, ils n'ont pas su faire confiance au Seigneur. Attention, Dieu a des sentiments. Si on ne lui fait pas confiance, ça lui fait mal. Et il est obligé quelque part de nous châtier, de nous discipliner. Je pense que c'est là où, je ne l'ai pas dit, mais en fait, c'est comme s'il nous donne un carnet de voyage, un journal, un carnet de bord plutôt, hein, en disant, bah, écoutez, remplissez-le avec cette confiance, avec cette foi, avec ces prières de dépendance. Et si on ne le fait pas, donc quelque part, il ne peut pas être content. Troisième chose, Marc chapitre 6, c'était l'occasion lorsque donc ce papa est venu avec son fils qui était tourmenté par un démon, et il avait demandé aux disciples donc d'intervenir, et finalement les disciples étaient incapables de chasser le démon. Et vous savez ce que le Christ leur a dit? Race incrédule et perverse. À ses disciples? Race incrédule et perverse, parce qu'ils n'arrivaient pas à se servir de la puissance que Dieu avait mise sur eux. Amen. Et puis, le papa, qu'est-ce qu'il a dit? Jésus lui a dit, ben écoute, rien n'est impossible à celui qui croit. Il a dit, je crois, viens au secours de mon incrédulité. Hein? Un papa, un père, en opposition directe aux disciples, qui arrivent à trouver la bonne formule. Vous savez, nous sommes des fois tellement accaparés par l'incrédulité. Vous savez, cet esprit de raisonnement. Et je sais que dans ma propre vie, il y a des passages, des fois, lorsque je me suis dit, mais où est ma foi? Je ne suis pas en train de renouveler ma confiance en Jésus, lorsque tout le temps, ils s'attendent à des actes de foi. Vous savez, Dieu cherche auprès de ses enfants des héros et des héroïnes. Et c'est qui ces héros? Mais c'est des personnes comme Moïse, qui ont osé frapper sur le rocher avec le bâton. Comme ce papa qui a osé croire que Jésus était capable de guérir son fils. C'est ça que Jésus cherche. C'est ça que le Papa, Dieu le Père, cherche auprès de nous. Il pourrait gérer l'univers sans nous, mais non, il s'attend à ce que nous agissions par la foi. Amen. Et là, dans un autre passage, en fait, c'est de Marc chapitre 8. Enfin, il y a 6 et 8, c'était lorsque Jésus-Christ a marché sur les eaux, c'était une nuit. Les disciples étaient en train de traverser le lac, et c'est marqué que Jésus a failli de passer à côté de la barque. Il marchait sur l'eau. Enfin, il savait très bien qu'ils étaient là. Mais en marchant sous l'eau, il les a dépassés. Et puis à un moment donné, ils l'ont vu et ils ont dit « Ah, c'est un fantôme !» Et Jésus est rentré finalement dans la barque. Pourquoi est-ce que Jésus ne les a pas repérés dans un premier temps et a failli de passer à côté? C'est parce qu'il vivait aussi dans cette incompréhension de tout ce qu'il avait fait comme miracle. C'est marqué. C'est marqué dans le chapitre 8, ils n'ont rien compris. Ils n'avaient rien compris de cette multiplication des pains. D'accord? Et puis là, en Marc chapitre 8, ils étaient encore dans la barque et il manquait du pain. Et ils étaient en train de s'organiser, de s'inquiéter en disant, mais qu'est-ce qu'on va faire? On va couler sans avoir mangé. Et Jésus le dit, mais écoutez, combien de paniers de pain restaient lors de cette douze, combien de pain restaient lors de cette deuxième, sept paniers. C'est-à-dire, ils étaient en train de calculer et raisonner avec un esprit humain lorsque tout le temps ils étaient auprès de celui qui sait multiplier toutes nos ressources, celui qui est capable de faire n'importe quel miracle. Amen. Attention, on calcule facilement, hein. Surtout avec nos sous. Mais Dieu, quelque part, nous invite de rentrer dans sa façon, de ne plus calculer, mais de le laisser multiplier. C'est un Dieu d'abondance. Il veut vraiment nous bénir. Vous savez, la pluie, c'est quoi? Mais c'est des milliards de gouttes qui tombent à la fois. Les flocons de neige, c'est ça. Dieu sait comment faire pleuvoir sous son peuple. Tout nous avons besoin. Amen. Attention, hein. De ne rien comprendre. Des choses qui se sont passées ici, dans votre vie à vous, c'est Dieu qui était en train d'agir. Est-ce que vous avez bien saisi la qualité et l'importance de tel ou tel moment de grâce? Peut-être même de miracle, de guérison, de délivrance. C'était pas vous, c'était Dieu qui a permis cette occasion. Et c'est une occasion par laquelle vous puissiez saisir la beauté de son intervention et d'être reconnaissant et d'apprendre. Vous savez, tous ces événements, ce sont des événements d'ordre pédagogique. Dieu veut toujours nous éduquer et nous former pour être beaucoup plus proche de lui. Amen. On lui fait le cadeau aujourd'hui. Amen. De bien comprendre, de bien saisir. Et puis, pour terminer là, j'avais noté aussi... Non, on l'a déjà dit. Voilà, le fait de ne pas rater des occasions. Lorsque le Père veut que nous saisissions des choses qui sont peut-être des révélations particulières pour toi, pour moi, parce qu'il veut à travers nous bénir tout le corps. Vous savez, il faut un sacré dose d'humilité pour confesser des fois, comme ce père d'enfant a confessé, viens au secours de mon incrédulité. C'est une prière à renouveler régulièrement. Seigneur, je n'ai pas la foi qu'il faut. Seigneur, je n'arrive pas vraiment à avoir cette prière. Aide-moi à t'adorer, aide-moi à prier comme il faut. Ben, c'est un papa qui se réjouit d'une telle demande de la part de ses enfants parce qu'il est là pour nous pardonner et pour nous faire repartir du bon pied et de rentrer de nouveau dans sa bénédiction. Amen. On lui fait plaisir aujourd'hui. Je pense qu'il nous refile un peu le carnet de bord, même si c'est lui le pilote, en disant, écoutez, inscrivez-vous, inscrivez toutes ces choses là-dedans pour me faire plaisir. Hein? Quelle chose. Mais un acte d'intercession où on va jusqu'au bout pour lui demander d'intervenir dans le cas de quelqu'un qui est proche de nous parce que cette personne a besoin d'être touchée par le Seigneur. Ça lui ferait un grand cadeau. Hein? Ou pourquoi pas un acte d'obéissance pour une fois, pour qu'on puisse rentrer dans un repos et d'une sérénité. Nous qui avons des fois l'habitude d'être très angoissés ou de vivre toutes sortes de soucis, de finalement rentrer dans son repos en lui obéissant. Pourquoi pas? Deuxième cadeau. De saisir aussi tout ce qu'il a fait pour nous. Peut-être ces derniers jours, il a fait quelque chose de particulier dans votre vie. Passez du temps à lui dire merci. Vous savez, je suis rentré de l'Afrique, j'étais tellement dépassé par tout ce que le Seigneur m'a fait là-bas, que je lui ai fait un vœu, et pour l'instant, je ne l'ai pas accompli. Je lui ai dit, Seigneur, je voudrais bien passer une journée pour te louer et te bénir, parce que c'était tellement fantastique, tellement fort. Vous savez, c'est très facile hein, de dire les promesses comme ça, et finalement, on se trouve sans avoir le temps. Non, je pense que c'est prioritaire de pouvoir passer du temps à lui remercier et de le bénir. Oh, il serait très content. Hein. Il serait très content, avec tout, même si c'est juste une heure, peut-être même pas une journée. Il serait tellement content parce qu'il est papa. Il est comme ça. Et un papa a besoin d'enfants pour savoir qu'il est papa, mais les enfants qui sont vraiment dans la joie et l'obéissance. Amen. Et puis finalement, c'est une guérison aussi. C'est une guérison. Amen. Le fait de le laisser nous toucher et nous guérir. Vous savez, je ne sais pas, mais nous écoutons actuellement à Internet tout ce qui se passe en Floride. Ce sont des choses assez remarquables. Depuis 70 jours, je pense, il y a un mouvement un début de réveil avec des signes et des prodiges, avec 10 000 personnes tous les soirs qui sont présentes, tellement ils ont faim de Dieu. J'ai entendu hier qu'ils en parlaient maintenant de 30 résurrections dans les 70 jours. Ça fait presque une résurrection tous les deux jours. C'est assez remarquable. Dieu est en train d'ouvrir ce monde pour que le royaume de Dieu vienne d'une manière visible. Et je pense qu'il nous demande aussi, nous, de nous laisser guérir, de s'attendre à ce qu'il guérisse dans nos situations de famille. Il a tellement envie, il veut le faire, il veut nous guérir, parce que toutes ces bobos, toutes ces blessures, ça ne lui fait pas plaisir du tout. Il veut que ses enfants soient entiers, soient retapés à fond. Ça, c'est la volonté du papa. Donc voilà, on écrit là dans le carnet, Seigneur, ma guérison pour aujourd'hui. Oh, la guérison de ma famille, de mon entourage, au nom, en ton nom, Jésus. Et puis on lui envoie cette prière. Amen. Prions.